la table des gourmands. Jusqu'à 19h.
Patrice Allon-Franchini, le musée de la vigne et du vin et du château de Boudry, en collaboration avec les éditions du Griffon. Vous allez sortir un livre très prochainement, au mois d'octobre. Un livre qui vous tient particulièrement à cœur, puisqu'il est intitulé « La vigne en noir et blanc ». Et là, on retrouve en image notamment l'histoire de la vigne dans le pays de Neuchâtel entre 1860 et 1960.
Oui. On a au musée une collection assez exceptionnelle de photographies. Des plaques photographiques qui remontent donc au XIXe siècle pour les plus anciennes et qui ne présentent pas simplement des scènes de vendange ou des scènes de famille ou des scènes de liesse en plein milieu du parchet. Non, ce sont des photos qui pour la plupart proviennent de l'ancienne école de viticulture d'Auvergne et qui avaient été prises pour permettre l'illustration de cours donnés à l'école de viticulture ou plutôt la station d'essai viticole. Donc il y a énormément de photographies techniques qui permettent de comprendre, par exemple, comment on arrachait les cèpes, comment on taillait les cèpes, quel type de machine on utilisait pour les traitements, quel type de maladie pouvait atteindre le vignoble, des problèmes liés aussi au remaniement parcellaire, disons ravines, bref, tout ce qui concerne la viticulture au sens large. Alors, ce livre, au-delà d'un texte qui va permettre de survoler l'histoire viticole neuchâteloise entre le XVIIe et nos jours, permet d'accéder par l'iconographie à des techniques de culture qui aujourd'hui ne sont plus du tout en vigueur.
Il y a donc une évolution importante au niveau de la viticulteur.
Oui.
La viticulture, parce que le vin, c'est toujours le même principe, mais beaucoup de choses ont changé.
Alors disons, on va d'abord commencer par ce qui fait le bon vin, c'est-à-dire le travail de la vigne. Parce que pour faire un bon vin, il faut déjà a priori avoir un bon raisin. Alors juste, par exemple, deux chiffres. Autrefois, pour cultiver un hectare de vigne, pour un homme, à la main, c'était 3000 heures annuelles. Aujourd'hui, avec les techniques et les machines, il faut compter 450-460 heures. Donc on a diminué évidemment le temps de travail. Mais il est vrai aussi qu'autrefois, un homme seul se chargeait au maximum d'un hectare de vigne. Et en travaillant à la main, en travaillant des vignes beaucoup plus densément peuplées en cèpes qu'elles ne le sont aujourd'hui, eh bien les vignerons devaient donner des soins qui aujourd'hui ont disparu. Donc la technique de la culture a changé. Les sélections aussi ont changé, parce qu'autrefois, avant le phylloxéra, donc cette espèce de puceron qui attaquait les vignes d'Europe, bah, tout le renouvellement des parchets se faisait sur une technique qu'on appelait le marcottage ou le provignage, c'est-à-dire qu'il suffisait de prendre un sarment, de le mettre en terre pour avoir naissance d'un nouveau plant. Donc on n'arrachait jamais les vignes étaient plantées en foule, elles n'avaient pas du tout l'aspect ordonné qu'on leur connaît aujourd'hui et nécessitaient beaucoup plus de soins. D'autre part, les vignerons tenaient à avoir des vignes complètement exemptes d'herbes, donc il fallait labourer 3 voire 4 fois. Donc beaucoup de temps à passer ce qu'on appelait les crocs et les rabelais. Bref, les techniques sont complètement modifiées. Et il faut dire aussi que la sélection des cépages, suite à la reconstitution du vignoble après le phylloxéra, a permis d'avoir des porte-greffes d'origine américaine qui sont propres à certains terroirs et qui permettent aujourd'hui d'avoir des raisins de plus grande qualité. Alors, le raisin est meilleur, on limite la production par mètre carré, c'est-à-dire qu'on a, lorsque le raisin arrive à la cave, aujourd'hui, des raisins qui permettent de faire d'année en année des bons vins.
Le vin a évolué, il est toujours meilleur. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 20 ou 30 ans, on aura des vins encore meilleurs qu'aujourd'hui ?
Alors sans aucun doute, puisque le travail de la cave a aussi été beaucoup mieux compris. Avant, c'est clair que bon, on pressait le raisin, on le mettait en tonneau, puis on priait un peu le bon Dieu pour que tout se passe bien. Bon, on avait quelques techniques de recettes de grand-mère, par exemple quand il y avait certaines maladies qui venaient piquer le vin. J'en cite un certain nombre dans l'ouvrage. Mais en fait, le vin, c'était une sorte de réussite ou de rater, ça dépendait des années. On n'avait pas aussi la propreté qui est absolument nécessaire dans la fabrication des vins que l'on a aujourd'hui. On n'a pas les possibilités autrefois de travailler les températures pour permettre les fermentations, les accélérer, les stopper. Bref, on avait des méthodes basées sur l'empirisme. Et puis d'autre part, quand on boit aujourd'hui, par exemple, un bon vin rouge, c'est un vin, surtout avec du pinot noir, qui a nécessité d'être cuvé pendant un certain nombre de jours, voire deux semaines. À partir de la fin du XVIIIe siècle, on avait enfin compris que c'était possible de le faire, mais avant, quand on faisait un vin rouge, il y avait deux solutions. Soit on faisait un cuvage et on encourait le risque d'une piqûre acétique, soit on ajoutait du teinturier qui donnait de la couleur rouge, mais la plupart du temps, on se contentait d'avoir un vin claret ou clairet qu'on appelait chez nous l'œil de perdrix. Et l'œil de perdrix, dans le fond, c'est l'origine du vin rouge de Neuchâtel, en tout cas si on le compare à ceux que buvait Rousseau et que son ami Descherny vantait, et comparé au meilleur des Bourgognes. Donc la technique de vinification, ça a aussi complètement évolué au gré des siècles, et dans cet ouvrage, on l'explique, on le montre, on en explique les fondements, le pourquoi et les aboutissements.
C'est un ouvrage qui vous tient particulièrement à cœur, parce que vous avez l'impression que là, vous avez encore pu mettre en valeur certains éléments qui manquaient, qui vous manquaient.
Disons, c'est la première fois que je vais rassembler dans un ouvrage le produit de recherche qui ont commencé en 1979, qui ne sont pas du tout encore aboutis et finis, et qui reposent sur l'étude de très nombreuses archives. Il faut dire que j'ai la chance actuellement de pouvoir consulter des archives privées qui sont d'une richesse incroyable sur la compréhension de l'histoire viticole neuchâteloise, et puis à partir de vieux papiers, eh bien reconstituer une vision du temps, d'un temps passé, mais qui est profondément inscrite dans l'histoire locale, dans les mentalités, dans l'architecture, puisque quand on se promène dans la région, on voit partout la présence de l'architecture viticole.